Bonjour, vous êtes bien installé? Prenez votre temps, c'est votre moment. Le calme vous entoure, votre respiration s'apaise, vous êtes prêt. Vous saisissez ce livre qui n'attend que vous. Au creux de vos mains, il se réchauffe, se réveille et commence doucement à pénétrer vos yeux. Il n'attendait que vous et votre envie de le découvrir pour retrouver la vie, et ce n'est que le début. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire entrer dans Les Saisons de la Nuit de Colin McCann, ce roman paru en 2007 qui a révélé l'auteur irlandais et la superbe évocation d'une famille noire américaine à New York tout au long du XXe siècle. André Clavel de L'Express parle de ce roman comme étant un roman d'une noirceur terrible, un voyage au bout de la nuit. Et c'est aussi un roman hanté par la grâce, 300 pages de ténèbres et de lumière où une nouvelle recrue des lettres irlandaises s'impose dans le sillage des McGahern et autres McCourt. À travers cet extraordinaire portrait d'une famille d'ouvriers américains du début du siècle à nos jours, Colum McCann impose un univers romanesque d'une rare puissance et une prose d'une beauté rude et lumineuse. New York, 1916. Des terrassiers creusent les tunnels du métro sous l'East River. Des Noirs comme Nathan Walker, venu de sa Géorgie natale, des Italiens, des Polonais, des Irlandais, pendant les dures heures de labeur dans les entrailles de la terre, une solidarité totale règne entre eux. Mais à la surface, chacun garde ses distances jusqu'au jour où un accident spectaculaire établit entre Walker et un de ses compagnons blancs un lien qui va sceller le destin de leurs descendants sur 3 générations. Ils arrivent à l'aube, véritable géographie de chapeau, champ de silhouettes sombres, tiges en mouvement, tournées vers le quartier des docks. D'abord éparpillés dans les rues de Brooklyn, venus par le tram, le ferryboat et le métro aérien, ils se rejoignent peu à peu pour former un seul flot. Ce sont des hommes rudes, qui fument la cigarette assidûment et marchent à pas pesants en faisant tomber de leurs semelles la boue de la veille. Ils laissent une traînée de gadoue derrière eux dans la neige. Des flaques gelées craquent sous leur poids. Le froid s'insinue dans leur corps. Certains ont de grosses moustaches qui ondulent au-dessus de leurs lèvres comme les herbes de la prairie. D'autres, des jeunes, ont la peau irritée par le rasoir. Tous ont le visage creusé par les risques du métier. Ils fument comme des fous, sachant qu'il pourrait bien ne leur rester que quelques heures à vivre. Engoncés dans leur par-dessus, ils sentent peut-être encore sur eux l'odeur de la nuit passée. Peut-être se sont-ils saoulés, peut-être ont-ils fait l'amour, ou bien les deux à la fois. Leurs histoires de beuverie et de sexe, ils en plaisanteront plus tard. Pour lors, ils se taisent. Il fait bien trop froid pour songer à autre chose qu'à marcher et à fumer. Ils se dirigent vers l'East River et se rassemblent près de l'entrée du tunnel, battant la semelle sur le pavé afin de se réchauffer. La neige fond à leurs pieds. Quand le coup de sifflet les appelle à leurs tâches souterraines dans l'air sous pression, ils tirent une dernière bouffée. Les cigarettes rougeoient soudain et tombent à terre, une à une, comme des nuées de lucioles qui s'arrêtent en plein vol pour se poser. Dans la file, Nathan Walker regarde les hommes de l'équipe de nuit émerger du tunnel, couverts de boue, de la tête aux pieds, éreintés. Il comprend qu'il a devant les yeux ce qu'il attend lui-même. Alors, il évite de regarder de trop près, mais de temps en temps, sa main se tend vers un de ces hommes crevés pour lui donner une tape sur l'épaule. L'homme épuisé lève la tête, fait un signe et passe son chemin en titubant. Walker réprime une envie d'éternuer. Il sait qu'un rhume, c'est une journée de salaire en moins. Dans l'air comprimé, sous le fleuve, il risque de saigner du nez ou des oreilles. Si la nouvelle s'ébruite, le chef de poste le fera sortir du rang. Alors, il ravale sa toux et ses éternuements au fond de ses tripes. Il sort une amulette de sa poche, un morceau de pierre qu'il fait tourner entre ses doigts. Son porte-bonheur est glacé au toucher. Walker s'adresse tout bas à son copain Con O'Leary. « Alors, mon pote ?»« Malade comme un chien. Une gueule de bois a tout cassé. Moi aussi. Nom de Dieu qu'il fait froid !» Oui, pas vrai? Attention, mon gars, on y va. Le chef de poste leur fait un signe de tête et ils se joignent aux ouvriers rassemblés à l'entrée du puits. Ils restent côte à côte et ils avancent petit à petit. Walker entend la machine à air comprimé gémir sous terre, un son prolongé, aigu et âpre, qui bientôt dans ses oreilles sera réduit à néant. Le fleuve est un dévoreur de sons. Il les happe, les engloutit. Walker rajuste son chapeau et jette un dernier coup d'œil au loin. Sur l'autre rive, le bureau des douanes et ses 3 arches sont gris dans le petit matin. Des dockers s'activent sur le quai. 2 cargos naviguent parmi les glaces flottantes et, au milieu de l'eau, une jeune femme en manteau rouge vif, debout sur le pont d'un ferryboat, fait de grands signes en agitant les bras. Walker reconnaît Maura O'Leary. Juste avant de disparaître, à sa vue, Con, son mari, porte la main à son chapeau en un geste qui pourrait être de rejet ou d'ennui, mais qui en fait est un geste d'amour. Walker sourit à ce spectacle. Il baisse la tête et il attaque sa descente sous le fleuve pour une nouvelle journée de terrassement. Par un matin si froid qu'il a l'impression d'avoir le cœur gelé contre la paroi du torse. Dans le sas, la porte est hermétiquement fermée et l'air comprimé siffle tout autour d'eux. Walker défait le bouton du haut de son pardessus. À présent, dans la chaleur de l'air sous pression, il sent ses orteils se relâcher. Une goutte de sueur perle à son front et il la chasse du pouce. Près de lui, O'Leary est affalé contre la paroi. Il respire à fond. Bientôt, Sean Power et Rhubarb Vanucci viennent les rejoindre. L'air devient torride au fur et à mesure que la pression monte, comme si une vague de chaleur s'était avisée de les accompagner sous terre, en plein hiver. Ils se pincent le nez tous les quatre, jusqu'à ce qu'ils sentent leurs oreilles se déboucher. Au bout de quelques minutes, Power s'accroupit et sort un jeu de cartes de son bleu de travail. Ils cherchent tous des pièces dans leur poche. Elles se mettent à jouer au poker, cependant que leur corps est soumis à une pression de plus de 2 kg au centimètre carré. Walker gagne la première partie et Power donne au jeune noir une tape sur l'épaule. « Dis donc, Noiro, tu t'es vu, le roi de pique ?» Mais Walker ne le prend pas mal. Il sait qu'ici, sous le fleuve, on est en démocratie. Dans l'obscurité, tout le monde a le sang de la même couleur. Rital, nègre, polac ou rouquin irlandais, c'est du pareil au même. Alors il se contente de rire, empoche ce qu'il vient de gagner et fait une deuxième donne. Le livre en vie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Yanis aux manettes de cette émission. Elle est à écouter à partir de vendredi 15h et en podcast quand vous voulez. La semaine prochaine, le grand Jean-Paul Dubois. Je vous souhaite de belles lectures printanières sur Esprit Occitanie.